Dime qué son los secretos de tu
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Stéphane Touvenin. Aujourd'hui, nous recevons Jacques Julliard pour parler de Simone Veil, une femme révoltée. Jacques Julliard, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lélie.
Bonjour. Alors Jacques Julliard, on vous connaît surtout comme analyste politique. En fait, vous êtes historien, ancien directeur délégué de la rédaction du Nouvel Observateur, éditorialiste à Marianne, l'auteur des Gauches françaises, qui a reçu d'ailleurs le prix de l'œuvre politique en 2012. Et vous avez aussi publié dans la collection Café Voltaire « Le malheur français » et « La reine du monde », essai sur la démocratie d'opinion, qui a aussi eu le prix du livre politique en 2008. Donc, votre préoccupation est essentiellement politique, mais je dirais que c'est plus que cela, parce que je vous ai vu depuis longtemps comme un veilleur qui se tient au chevet de la dame démocratie, bien malade parfois, et sur laquelle vous livrez en général des réflexions à la fois profondes, parfois amusantes. En tout cas, on vous connaissait surtout sous cet angle-là. Et voilà que vous venez de publier un ouvrage qui s'intitule « Le choc Simone Veil ». Chez Flammarion, toujours dans cette collection Café Voltaire. Et là, on découvre un autre Jacques Julliard. Ou peut-être pas tant que ça. On découvre peut-être le Jacques Julliard qui était déjà dans vos écrits plus politiques. Et quelque chose de vous, je crois, se dévoile dans cet amour que vous exprimez publiquement pour Simone Veil. Vous dites dans votre introduction, « Pour moi qui n'ai aucune autorité à parler de Simone Veil, aucun autre titre à faire valoir que l'expérience du choc que j'ai reçu, aucune autre ambition que de faire partager cette émotion intellectuelle, ce fut les deux à la fois. » C'est-à-dire à la fois, vous avez pris un risque, en fait vous avez pris un risque double, hein, celui de passer pour quelqu'un qui aime la Simone Veil un peu mystico, ou alors vous avez accepté aussi de prendre le risque de vous découvrir dans la zone des tempêtes et d'en sortir, comme vous le dites, démoli ou régénéré. Je crois que vous en êtes ressorti très régénéré et c'est cela que nous voulons que vous partagiez avec nous.
Alors, on a été très touchés l'un et l'autre par votre livre, qui est à la fois, bon, comme toujours chez vous, hein, très bien écrit, et en même temps, qui nous fait découvrir, c'est un petit livre, mais je crois 130 pages, mais qui fait découvrir la philosophe, je précise pour nos auditeurs, la philosophe Simone Veil, pas l'ancienne ministre, parce qu'évidemment...
Que j'admire aussi, mais voilà. C'est une chose différente.
Vous ferez peut-être un jour un livre sur elle.
Pourquoi pas.
Et donc, avant qu'on parle du contenu du livre, c'est-à-dire des éléments dans sa vie, dans sa pensée qui vous ont particulièrement touché, j'aimerais que vous nous disiez à quel moment de votre vie vous l'avez rencontré.
Écoutez, ça s'est fait très, insensiblement. C'est relativement tardif. C'est relativement tardif. J'ai fait comme beaucoup de gens. J'ai lu autrefois le livre le plus connu d'elle, qui s'appelle « La pesanteur et la grâce », à condition de préciser que le titre n'est pas d'elle, même si les mots sont d'elle, et que le choix, car c'est un choix de texte, n'est pas non plus d'elle. Elle avait confié ses cahiers à Gustave Thibon, qui était à l'époque le philosophe officiel du pétinisme. Donc c'était quelqu'un sans préjugés, parce que par ailleurs, elle était dans la résistance. Mais Gustave Thibon, je crois, a fait une œuvre parfaitement honnête et en a tiré, sous une forme un peu thématique, des textes que beaucoup de gens connaissent. Enfin, quand on ne connaît rien de Simone Veil, on connaît en général la pesanteur et la grâce. Au fond, Gustave Thibon a fait sur Simone Veil ce que les premiers éditeurs de Pascal ont fait avec les pensées, c'est-à-dire ils les ont classés par thème. Alors aujourd'hui, on est beaucoup plus philologique, on est beaucoup plus rigoureux, on essaye de reconstituer le mouvement même de la pensée de Pascal ou de Simone Veil, ce qui est en train de se faire dans ses œuvres complètes chez Gallimard, mais il n'empêche que ce choix thématique, ça m'avait frappé. Et puis progressivement, j'ai lu ces livres au fur et à mesure qui paraissaient chez Gallimard, et notamment ses cahiers, parce que la pesanteur et la grâce dont je parle, ce sont des extraits des cahiers, 4 énormes volumes, c'est beaucoup plus gros que les pensées de Pascal. Et là, j'ai eu le sentiment de quelque chose qui, au fond, n'appartenait à rien de ce que j'avais lu jusque-là. C'est pourquoi je parle d'un choc, parce que c'est d'abord ce sentiment d'étrangeté que les meilleurs commentateurs ou les meilleurs compagnons de Simone Veil ont éprouvé lorsque Alain, qui était son prof de Cagnes, prof de Cagnes vénéré et très influent sur elle, comme sur toute une génération de normaliens, il l'appelait la Martienne. Et effectivement, son frère, qui est un mathématicien de génie, paraît-il, alors là je parle par oui dire, parce que je suis bien capable de le dire, un des grands mathématiciens du siècle, et qui a eu l'occasion d'ailleurs de côtoyer à Princeton, où il a terminé sa carrière, eh bien lui il appelait la trollesse. Comme vous savez, les trolls sont ces divinités de la mythologie scandinave. Et la trollesse, ça montre bien que quel que soit le sujet dans lequel elle s'investissait, et ça pouvait être aussi la pensée, mais aussi l'action, elle donnait aux choses qu'elle abordait une couleur complètement nouvelle. Pour moi, le génie, c'est ça. Tout à l'heure, avant même de commencer cette émission, je vous disais combien j'avais admiré ce petit texte qui s'appelle « Pour la suppression des partis politiques ». Pour la suppression des partis politiques. Dit comme ça, c'est très choquant, ça heurte toutes nos idées démocratiques. Et quand vous lisez ce texte qui a été salué à sa sortie aussi bien par Alain que par André Breton, ce qui est quand même deux sensibilités extrêmes, eh bien, on comprend très vite que le problème n'est pas de savoir si on va faire un référendum pour supprimer les partis. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est que, brusquement, Simone Veil, se saisissant de la question politique des partis, dit, au fond, ils sont le contraire de la démocratie. La démocratie ne peut vivre qu'avec la recherche de la vérité, de la justice. Et qu'est-ce qu'un parti ? C'est un parti, c'est une institution qui a été créée pour dégoûter les gens de la justice et de la vérité. Je vous dirais, parce que ça nous mènerait trop loin, que je pense à peu près la même chose. Ce qui ne m'empêche pas, naturellement, de respecter les partis, et je descendrais dans la rue si on voulait les supprimer. Mais voilà, c'est ça Simone Veil. C'est quelqu'un qui prend les choses par un bout auquel on n'avait
pas pensé. Et puis une grande liberté, donc effectivement, elle n'hésite pas à dire des choses qui sont politiquement très incorrectes, qui peuvent paraître très choquantes.
Tout le temps, et pas du tout par esprit de paradoxe, pour briller, parce qu'elle ne cherchait pas à briller. C'est un des rares grands esprits du temps qui a été totalement inconnu toute sa vie. Et qui reste encore aujourd'hui très largement ignoré. Le public Simone Veil, c'est un public très fervent, très convaincu, mais en même temps très restreint.
Mais oui, parce qu'elle est solitaire. C'est un penseur qui n'existe pas dans un mouvement, absolument, dans un courant, et elle a d'une certaine manière gêné considérablement de gens. Prenons d'un point de vue religieux. Elle est juive, mais elle critique l'Ancien Testament avec une virulence incroyable, en disant qu'est-ce que c'est que ce dieu nationaliste barbare. Elle est touchée par le Christ, par les évangiles, mais elle fait aussi une critique très forte de l'Église et absolument du catholicisme. Donc, elle est très isolée, finalement, dans ses positions.
J'ai envoyé ce livre à un certain nombre de mes amis, bien entendu, comme on fait. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a trois catégories de lecteurs qui ont réagi contre ce que j'avais écrit, pour autant que j'essayais d'être, non pas le porte-parole Simone Veil, mais enfin d'essayer de traduire les messages de Simone Veil. Il y avait les juifs, très choqués de ce que je disais, de ce qu'elle dit sur l'Ancien Testament, et moi j'en ai ont rajouté une couche en disant que le Dieu de l'Ancien Testament, c'était un Dieu un peu facho. Donc les Juifs n'étaient pas très contents. Les chrétiens n'ont pas contents du tout non plus, parce que sa critique de l'Ancien Testament est relativement connue. Celle de l'Église l'est beaucoup moins. Et elle est encore plus virulente. Elle compare l'Église à l'hitlérisme. Donc au moment même où elle se rapproche non seulement de la foi dans le Christ, mais même d'une certaine manière des institutions catholiques, à ce moment-là, car elle n'a jamais voulu céder sur ce qui lui paraissait l'essentiel, c'est-à-dire la vérité, et qu'aucun de ses engagements, que ce soit politique, religieux, philosophique, etc., qui suppose toujours une acceptation, sinon de la discipline de parti, dont je parlais tout à l'heure, mais tout de même d'une certaine vision globale, ça, elle a toujours refusé. Parce qu'elle considère qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui va au bout de sa vérité, quoi que ça coûte. Ça lui a coûté la vie, parce qu'elle pensait qu'il était impossible de vivre normalement pendant la guerre, quand des gens mouraient de faim, elle s'est laissée mourir de faim, pratiquement. Enfin.
Oui, parce que ça, c'est l'autre aspect. Vous dites dans votre livre, il y a deux choses qui sont intangibles pour elle et qui la caractérisent de manière très singulière. C'est qu'elle veut être en totale cohérence entre ses paroles et sa vie.
Voilà.
Et puis, ne rien mettre au-dessus de la vérité. Donc, voilà. Aucune idéologie, finalement.
Et pousser ses vérités jusqu'au bout. Et c'est là toute la difficulté, parce qu'on pourrait croire que ça n'est jamais que un grand jardin de paradoxes, Simone Veil, ou de vérités contradictoires. Elle est de cette famille de pensées, moi qui me passionne, qui est anti-hégélienne au possible, et qui considère que il n'y a jamais de dépassement définitif, que la pensée, comme la vie, est faite d'éléments contradictoires et qu'il faut, pour penser vraiment, comme vous disiez à l'instant, il faut avoir le courage de maintenir cette contradiction. Alors, puisque vous demandiez des exemples, je prends l'exemple le plus frappant qui est son pacifisme. Elle était pacifiste. Élève d'Alain, tous les élèves d'Alain étaient pacifistes, enfin tous ceux qui suivaient le maître, et j'ai encore eu les témoignages de camarades plus âgés que moi à Normalsup qui disaient les élèves d'Alain, une fois reçus à l'école, c'était une secte. Ils se déplaçaient ensemble, ils faisaient la bringue, je ne sais pas s'ils faisaient la bringue, mais enfin, bon, ils s'amusaient ensemble, ils signaient ensemble, ils protestaient ensemble. Il y avait une sorte de petite secte des élèves d'Alain. Donc, elle était pacifiste. Et comme vous l'avez rappelé, poussant ses idées jusqu'au bout, elle poussait l'idée de pacifisme jusqu'à l'idée de non-résistance au mal. Elle a écrit dans les années 30 que la meilleure manière peut-être de se débarrasser d'Hitler, c'était de ne pas s'opposer. Parce que la lutte entre Hitler et les anti-hitlériens, enfin, les antifascistes, on peut dire, ou en tout cas, ou les puissances occidentales, c'était ça aussi, créait un flot de sang qui était interminable. Et que lorsque on ne résiste pas au mal, en quelque sorte, plus rien sur quoi on peut taper. Alors cette idée était profondément choquante. Elle va même jusqu'à dire, et ça lui a été reproché, parce qu'on a dit qu'il était antisémite, haine de soi, enfin, etc. Et elle est allée jusqu'à dire que, bien sûr, si on ne résiste pas à Hitler, ça aurait certainement des conséquences extrêmement fâcheuses pour les Juifs, n'est-ce pas ? Elle dit, je serai d'ailleurs parmi les premières qui en souffriront, mais peut-être faut-il envisager ça. Et le jour où elle découvre que cette idée, on ne peut pas la pousser jusqu'au bout, que justement, contrairement à sa conviction qu'il faut pousser ses idées jusqu'au bout, elle s'aperçoit que laisser faire le mal, c'est-à-dire Hitler, et c'est une entreprise qui ne pourra pas se retourner et que le mal ira cumulant. Alors, elle-même se retourne complètement. se retourne complètement, ce qui fait que, par exemple, alors qu'elle est, elle a approuvé et qu'elle continuera d'approuver la non-intervention en Espagne, telle que l'avait définie Léon Blum, eh bien, malgré cela, elle part, elle s'engage en Espagne. Elle fait une guerre assez rapide, il est vrai, parce que d'abord, elle suscitait la terreur de tous ses camarades autour d'elle, dès qu'ils la voyaient avec un fusil, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement maladroit. Sa guerre s'est terminée dans une bassine d'huile bouillante. Elle était très myope. Elle a mis le pied dans une bassine d'huile bouillante. Évidemment, le pied était considérablement amoché. Ses parents sont venus la récupérer. Bon, sa guerre s'est terminée là. Mais le fait qu'elle se soit engagée, et militairement, on la voit fière portant un fusil dans les premiers jours de son arrivée là, parmi les républicains espagnols, chez les anarchistes, près de la colonne d'Urruti. C'est ça, Simone. Et pourtant, à son retour, elle continue de dire « la non-intervention, telle que Blum l'avait définie, c'était la bonne politique ». Alors, on peut en effet considérer que c'est un tissu de contradictions. Je crois que si on essaye d'épouser sa pensée, on comprend que la démarche, c'est celle de la conciliation des contraires ou de la coexistence des contraires.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous sommes en compagnie ce matin de Jacques Julliard. Nous parlons de Simone Veil, une femme révoltée à l'occasion de son livre. Jacques Julliard, le choc Simone Veil chez Flammarion. Lélie Anvar.
Oui, en fait, Simone Veil fait partie de ces auteurs pour lesquels j'ai toujours énormément de mal à choisir un texte. C'est vrai qu'en préparant cette émission, j'ai envie de tout lire. Et donc, comme vous venez de parler du mal et de son rapport à ses difficultés que pose en fait la question du mal, en particulier dans la vie politique. Donc je vous ai apporté un texte de la pesanteur et la grâce, dans lequel on voit comment, pour elle, le problème du mal est un problème de l'individu avec lui-même et de sa distance avec la question de la vérité. Le péché contre l'esprit consiste à connaître une chose comme bonne et à la haïr en tant que bonne. On éprouve l'équivalent sous forme de résistance toutes les fois qu'on s'oriente vers le bien. Car tout contact avec le bien produit une connaissance de la distance entre le mal et le bien et un commencement d'efforts pénibles d'assimilation. C'est une douleur et on a peur. Cette peur est peut-être le signe de la réalité du contact. Le péché correspondant ne peut se produire que si le manque d'espérance rend la conscience de la distance intolérable et change la douleur en haine. L'espérance est un remède à cet égard, mais un remède meilleur est l'indifférence à soi et d'être heureux que le bien soit le bien, quoi qu'on en soit loin, et même dans la supposition où on serait destiné à s'en éloigner infiniment. Une fois un atome de bien pur entré dans l'âme, la plus grande, la plus criminelle faiblesse est infiniment moins dangereuse que la plus minime trahison. Celle-ci se réduirait-elle à un mouvement purement intérieur de la pensée, ne durant qu'un instant, mais consenti. C'est la participation à l'enfer. Tant que l'âme n'a pas goûté au bien pur, elle est séparée de l'enfer, comme du paradis. Je crois que le mot, là, ici, est la minime trahison. Et c'est peut-être à cela qu'elle ne veut jamais céder.
Absolument. Ce texte montre aussi que c'est un grand écrivain. Et si l'on sait qu'elle est morte à 34 ans, que ses œuvres complètes vont faire, je crois, 16 ou 17 gros volumes de 600 ou 700 pages chez Gallimard. Bon, ça ne se mesure pas au poids ou à la distance. Mais je veux dire qu'elle écrivait parfois des textes admirables, mais au fil de la plume. C'est-à-dire, il y a quand même quelque chose de très impressionnant. Je pense à une lettre qu'elle fait au père Perrin, qui est un jeune dominicain très handicapé physiquement, avec qui elle avait sympathisé, et elle lui envoie une lettre sur... c'est une sorte de confession spirituelle, qui a 17 pages et que visiblement elle a écrit sans arrêt comme ça. Et c'est un texte absolument admirable. Alors pour revenir à celui que vous avez choisi, et je trouve très bien choisi, parce qu'il va à l'essentiel de ce qui est le souci de Simone Weil, c'est-à-dire en effet passer toute chose à l'établi et à l'aune de sa propre... sincérité, son propre regard. Le bien et le mal sont des catégories fondamentales, mais, dit-elle, il faut faire attention. Il y a quelque chose qui est au-delà. Je vais parler comme Nietzsche, au-delà du bien et du mal. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y a à certains moments des rapports avec Nietzsche. Eh bien, qu'est-ce que c'est pour elle ? C'est deux choses. D'abord, c'est l'attention. Sur l'attention, et l'apostrophe, bien entendu, elle a écrit des pages classiques, après quelques-uns des grands philosophes de l'attention, comme Malebranche, par exemple, et sur le fait que on a d'abord besoin de cela. On a d'abord besoin de considérer les choses. Elle disait, si on lit, par exemple, dans la prière, elle disait, j'ai essayé hier de lire et de réciter le Notre Père avec une attention absolue. Eh bien, c'est quelque chose de tout à fait différent qu'en surgit. C'est-à-dire où chaque mot prend son sens le plus fort, où les rapports entre les mots prennent leur sens. C'est une expérience à la fois philologique et mystique. C'est tout à fait impressionnant. Et la deuxième chose, pour arriver... comment dire, à dépasser d'une certaine manière le bien et le mal. C'est dans cette attitude qui était si souvent mal comprise que par rapport à l'admiration de l'homme devant la création du monde, qu'on l'attribue à Dieu ou au hasard ou à la nécessité, comme dirait l'autre, mais il faut en quelque sorte s'en absenter. Comme, dit-elle, Dieu, le Christ, s'est absenté de sa création. Alors que chez les chrétiens normaux, si j'ose dire, Dieu est partout dans sa création. La création, le ciel et la terre chantent la gloire de Dieu. On a tous appris ça ou lu ça dans les psaumes, mais aussi en lisant Claudel, par exemple. Elle, c'est le contraire. Elle dit, pour que l'homme soit libre, Dieu s'absente de sa création. Et pour que je rejoigne Dieu, ou Jésus, le Christ, pour elle, il faut que je m'absente aussi de la création. C'est ce qu'elle appelle d'un concept difficile, qui effraie la plupart des gens et qu'elle appelle la décréation. C'est en effet une pensée d'une cruauté à l'égard de soi-même, à l'égard de l'humanité bonasse en quelque sorte, totale. Mais en même temps, c'est un effort pour arriver à la substance des choses qui est au-delà du bien et du mal. Je n'ai jamais pensé qu'Immanuel fût un modèle qu'il faut imiter. Et ça n'est pas un modèle, et je ne crois pas que vous êtes un modèle. C'est un défi. À chaque moment, on se dit, elle n'a peut-être pas raison. Peut-être qu'il y a une part de folie conceptuelle chez elle, et en même temps de folie du sentiment. Mais en même temps, tant que je ne me suis pas confronté avec l'expérience limite qui a été la sienne dans tous ses actes et dans toute sa vie, eh bien, je n'ai pas le droit, ni de la condamner, ni de passer à côté de cette chose-là.
Alors, ce que je voulais juste préciser, c'est par rapport à ce que vous disiez de Dieu qui se retire du monde. C'est une idée très forte de la Kabbale juive qu'elle connaissait très probablement, qui est le retrait de Dieu du monde pour laisser l'homme et la liberté exister. Donc c'est une idée qu'elle a peut-être trouvée quand même dans des textes de la Kabbale. Et puis pour rejoindre ce que vous dites, parce qu'elle a fait son miel de plein de choses, hein, du platonisme, de la Kabbale, des mythes orphiques, etc.
Elle dit qu'il y a un christianisme avant le Christ.
Oui.
Et dans lequel
Intuitions pré-chrétiennes, s'appelle son ouvrage?
Exactement. Oui. Les intuitions pré-chrétiennes dans lesquelles il y a des choses très différentes de la mystique orientale, mais aussi la religion égyptienne, notamment le livre des morts, qui est un texte pré-chrétien, Platon aussi, Platon. Enfin, voilà. Pardon, mais je...
Non, tout à fait. Non, c'est intéressant de savoir qu'elle avait toute cette culture-là qui la passionnait. Et pour rejoindre ce que vous disiez sur le fait qu'elle n'est pas un modèle et un défi, alors là, je vous rejoins complètement parce qu'effectivement, elle est inimitable, encore presque plus inimitable que le Christ, on a envie de dire, tellement elle est radicale dans tout, mais presque extrémiste. Et c'est vraiment... alors là, j'aimerais que vous nous parliez un peu de ses engagements par rapport au monde ouvrier, par rapport à la... Parce qu'une de ses grandes préoccupations, c'est de lutter contre l'injustice sociale. Mais comment est-ce qu'elle l'a fait et de quelle manière aussi extrême elle l'a fait? J'aimerais que vous nous en parliez.
Alors, là aussi, Simone Veil est tout entière dans chacun de ses actes. Moi, si j'ai écrit ce petit livre qui n'a pas de prétention, encore une fois, à apporter plus de science que nous puissions en avoir aujourd'hui sur Simone Veil, c'était pour rappeler que... On ne peut pas dire il y a la militante libertaire d'un côté, la philosophe platonicienne d'un autre côté et la chrétienne mystique d'un troisième côté. Non, dans chacun de ces actes, il y a presque la totalité. Et elle sort de Normale Sup, elle est nommée, je crois que c'est en 31, je crois, au Puy, professeur au lycée de jeunes filles du Puy. Elle prend immédiatement contact grâce à des amis, notamment les Alexandres, qui étaient des amis d'Alain. Elle prend contact avec les milieux de la Fédération de l'Éducation nationale, d'extrême gauche, et elle se met à militer. Sa manière de militer est très particulière. D'abord, elle dit... Pourquoi y a-t-il des salaires de professeurs et des salaires d'instituteurs? Elle décide qu'elle prendra le salaire d'un instituteur commençant et que tout le reste, elle le versera à la Caisse de solidarité des mineurs de Saint-Étienne, de la Ricamarie, etc. Ça, c'est une première manière. Deuxièmement, alors, elle choque complètement la bourgeoisie du Puy. Ses élèves l'adorent, hein, et la protègent toujours. Elle militait donc à la CGT, mais elle dit au même moment, bon, il y a la CGT et la CGTU. Je vais aller aux deux congrès. Elle va au congrès de la CGT et au congrès de la CGTU. Je ne sais pas comment elle s'est arrangée pour se faire donner un mandat des deux organisations. Je n'ai pas regardé ça dans le détail. Et elle va prêcher l'unité. Mais elle va au congrès de la CGTU, donc, qui est un syndicat communiste à l'époque, essentiellement communiste. Et elle fait un grand discours contre le stalinisme. Alors vous voyez comment elle a pu être accueillie au congrès de la CGTU en 1931 ou 32 dans une dénonciation virulente du stalinisme. Et puisque j'en suis là, je signale que un peu de temps auparavant, elle a rencontré Trotsky. Elle a rencontré Trotsky parce que qui était semi-clandestin en France après avoir fui l'Union soviétique. Et ses parents ont contribué à l'héberger, pas très loin d'ici, rue Auguste Comte, dans le 5e arrondissement. Et elle tombe sur Trotsky, et littéralement lui tombe dessus en lui disant « Comment pouvez-vous déclarer que l'Union soviétique est un État prolétarien alors que c'est un État qui opprime le prolétariat ?» Trotsky trouve que cette donzelle est un peu, effrontée et tout de même. Voilà, c'est-à-dire qu'au moment où elle milite le plus pour les causes qui lui sont chères, c'est-à-dire la cause ouvrière, en même temps, elle dit qu'il faut aller au bout et chaque fois faire surgir les contradictions majeures qu'il peut y avoir.
Elle va travailler en usine.
C'était sa grande idée à une époque où ça ne se faisait pas. Elle est la première de ceux qu'on appellera en 1968 les établis. On s'établissait, quand on était maoïste en 1968, on s'établissait en usine. Bien, elle ne s'établit pas parce qu'elle n'y va pas pour prêcher les ouvriers. Elle y va pour partager la condition ouvrière. Et l'expérience qu'elle en fait est absolument terrible. Elle ne dit pas « c'est beau, c'est la solidarité ». Elle dit ça. Elle dit bien sûr « il y a la solidarité ». Dont elle a bénéficié parce qu'elle avait voulu être dans les postes les plus... dans la fonderie, par exemple, où d'habitude c'est de gros balèzes costauds qui font ça. Elle a voulu faire ça, elle n'y arrivait pas. Donc elle bénéficiait d'une certaine solidarité. Mais elle dit en même temps que c'est un monde terrible. Qu'après avoir vécu cette expérience, elle s'est fait renvoyer de toute une série d'usines, d'ailleurs, chez Renault en particulier. Elle dit, ce que j'en ai tiré, c'est une coloration de souffrance et une expérience du malheur qui me poursuivra jusqu'à la fin de ma vie. Il y a un texte très célèbre de Simone Veil, alors là qui est connu de tout le monde, même que c'est à propos des grèves de 1936. Elle n'est plus en usine d'ailleurs à ce moment-là. Elle dit « cette grève est une joie pure ». C'est une joie pure, pourquoi ? Parce que pour la première fois les ouvriers sont libres à l'intérieur de l'usine. Ces instruments, ces outils, ces machines, ils les respectent parce qu'ils font partie de leur propriété, de leur patrimoine en quelque sorte. Il y a un texte sur la beauté de ces grèves et sur l'allégresse de ces grèves. Seulement, j'ai voulu relire le texte tout entier. Et je suis tombé sur cette phrase, « Ces grèves sont fondées sur le désespoir ». Et ça, c'est tout Simone, parce qu'à la fois, elle a su traduire comme personne, au point que ce texte est devenu classique et qu'on le cite toujours pour décrire ce qu'a été ce printemps du peuple ouvrier qu'a été juin 36 dans la France du Front populaire. Mais on oublie qu'au même moment, elle le dit ça avec toute son âme, elle dit c'est sur un fond de désespoir. Et donc c'est sans arrêt cette volonté de tenir, on dirait banalement, les deux bouts de la chaîne, qui est dans son expérience. À la fois intellectuelle, elle est d'extrême gauche et elle est libertaire, et dans son existence pratique, elle a épousé la condition ouvrière et en même temps, elle l'a dénoncée.
Ay, qué pasará, ay, qué habrá pasado.
Corrupe Mussolini, suspira Franco, suspira Franco. ¿Para qué tantos humos, tantos farores, si nuestros marineros son españoles? ¿Qué será, ay, qué pasará, qué estará pasando? La marina española que está luchando.
¿Qué será, ay, qué pasará, qué habrá sucedido?
Marina española, que ya ha vencido. Tanto alemán que tienes, tanto italiano, y a un español le basta solo una mano. Y han de ver, y lo van a ver, como al Baleares, o la Cervera y Canarias, bajo los mares.
Y han de ver, y lo saben bien, y ya lo habéis visto.
Creo que los españoles son españoles.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie ce matin de Jacques Julliard. Nous parlons de Simone Veil, une femme révoltée. Lélie Anvard.
Oui, en fait, même quand vous nous parlez de son expérience comme ça, très engagée, politique, auprès des ouvriers, on voit que finalement, dans tout ce qu'elle a fait, dans tout ce qu'elle a été, d'une certaine façon, elle a été une mystique radicale. Il y a chez elle une mystique de la politique, une mystique de l'engagement, une mystique de la prière. En réalité, elle reprend tout dans ça. Alors, ce que j'entends par mystique, c'est qu'on a l'impression, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec l'image, on a presque l'impression que Simone Veil, c'est Jacob luttant avec l'ange en permanence.
Oui. C'est-à-dire c'est qu'elle est... Très bonne image.
Voilà, ouais. elle a... Alors, son rapport au monde est un rapport à la fois de... C'est très étrange parce qu'elle est dans un rejet de beaucoup de choses au nom d'une pureté absolue qu'elle recherche. Et en même temps, elle est dans la matière du monde, dans un combat permanent avec la matière du monde, comme si c'est de là qu'elle voulait faire jaillir cette lumière qui est de même nature que ce qu'elle appelle la vérité. C'est-à-dire qu'elle est dans la quête de cette vérité, y compris dans ce corps à corps avec le monde.
Vous avez tout à fait raison, et je suis content que vous ayez employé ce mot de matière, parce que on ne peut pas imaginer quelqu'un, je dirais au sens banal du terme, de plus idéaliste que Simone Veil. Mmh. Vous avez eu raison d'employer plutôt le mot mystique, mais en même temps, c'est une philosophe matérialiste. Au sens propre du terme, c'est dans cette espèce de combat qu'elle a éprouvé quand elle s'est engagée en usine, le métier ouvrier, c'est en quelque sorte une confrontation, une lutte avec la matière, comme vous l'avez dit, à propos de cette espèce de combat avec l'ange. Et chez elle, tout part de cette matérialité. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais voulu considérer que parce qu'elle avait... Et elle avait une ambition immense. Simone Veil, c'est quelqu'un qui a une ambition immense pour l'humanité. Et c'est-à-dire, moi, chaque fois que je la lis, je me fais cette pensée un peu banale que nous n'utilisons jamais que 10% des virtualités que Dieu ou la nature, comme on voudra, Deus Ive Natura, comme dit Spinoza, nous a offert. Alors, elle veut aller jusqu'au bout, mais à condition de partir de ce qu'il y a de plus matériel. Et c'est pour ça que non seulement elle a travaillé en usine, mais elle a travaillé aussi dans les champs, à la campagne, chez Gustave Thibon, qui lui avait ménagé un petit, une chambre dans son appartement ou dans sa maison. Elle a trouvé que c'était trop beau et est allée s'installer dans une ferme en ruine à quelques kilomètres de là. Mais c'était chaque fois dans cette confrontation avec la matière.
Alors c'est pourquoi je vous ai apporté un extrait de Attente de Dieu qui me semble bien résumer cela. Et c'est presque inattendu chez Simone Veil. Et en même temps, si on y réfléchit bien, c'est vraiment la quintessence, je pense, de son rapport au monde. C'est parce que l'absence de finalité, l'absence d'intention est l'essence de la beauté du monde que le Christ nous a prescrit de regarder comment la pluie et la lumière du soleil descendent sans discrimination sur les justes et les méchants. Cela rappelle le cri suprême de Prométhée, ciel par qui pour nous la commune lumière tourne. Le Christ nous commande d'imiter cette beauté. Platon, dans le Timée, nous conseille aussi de nous rendre à force de contemplation, semblable à la beauté du monde, semblable à l'harmonie des mouvements circulaires qui font succéder et revenir les jours et les nuits, les mois, les saisons, les années. Dans ces mouvements circulaires aussi, dans leur combinaison, l'absence d'intention et de finalité est manifeste. Et la beauté pure y resplendit. C'est parce qu'il peut être aimé par nous, c'est parce qu'il est beau que l'univers est une patrie. C'est notre unique patrie ici-bas. Cette pensée est l'essence de la sagesse des stoïciens. Nous avons une patrie céleste, mais en un sens, elle est trop difficile à aimer, parce que nous ne la connaissons pas. Surtout, en un sens, elle est trop facile à aimer, parce que nous pouvons l'imaginer comme il nous plaît. Nous risquons d'aimer sous ce nom une fiction. Si l'amour de cette fiction est assez fort, il rend toute vertu facile, mais aussi de peu de valeur. Aimons la patrie d'ici-bas. Elle est réelle, elle résiste à l'amour. C'est elle que Dieu nous a donné à aimer. Il a voulu qu'il fût difficile et cependant possible de l'aimer.
C'est admirable.
Bon, à nouveau, c'est vrai que c'est d'une beauté saisissante, quand même.
C'est vrai. En plus, littérairement, c'est d'une grande pureté, comme tout ce qu'elle a fait. Je crois que c'est important. Chez elle, il y a tout de même un ascétisme extraordinaire de Simone Veil. Il y a deux choses où, au fond, elle, je ne dis pas qu'elle relâche son ascétisme, mais elle lui donne une figure un peu moins sévère. C'est la beauté et l'amitié. Et ce que vous avez dit, ce que vous avez fait dire à Simone Veil sur la beauté, c'est très très important. Et elle dit qu'on ne peut accéder à la beauté qu'à condition de faire cette espèce d'ascèse qui est celle du renoncement à sa propre individualité et aussi au collectif. Et c'est une chose, c'est une notion que nous n'avons encore pas introduite, mais qui est importante et à laquelle je consacre un des chapitres de ce petit livre, c'est de la part de cette syndicaliste, de cette militante, une dénonciation de ce que le collectif est, au même titre que l'individu, la possibilité d'une perversion. Et c'est ce qu'elle elle a pris le mot chez Platon, au livre, je ne me rappelle plus, je crois que c'est dans au livre 6, La République, si je ne me trompe, c'est le gros animal. Et il y a chez Simone Veil, là aussi, cette volonté de dépasser l'individuel et le collectif, et notamment ce qu'elle déteste, c'est-à-dire l'opinion. Mmh. Le gros animal, qu'est-ce que c'est? Et c'est l'opinion. C'est ce que flattent tous les politiciens. Les politiciens flattent le gros animal, c'est-à-dire la collectivité qui ronronne, qu'il faut caresser dans le sens du poil. Et ça m'a frappé parce que j'avais trouvé à peu près la même idée chez Pascal, mais aussi chez Rousseau. Rousseau dit exactement la même chose. Au début de l'Émile, il explique que quiconque fait hommage à l'opinion est victime de l'opinion. Si vous essayez de caresser le gros animal dans le sens du poil, c'est lui qui aura le dernier mot. Et vous serez sa victime à votre tour. Rousseau le dit infiniment mieux que moi. Mais je pense que cette double ascèse qu'elle décrit est à la fois le refus de l'individualisme, parce que ça va très loin chez elle. C'est le refus de la personne. Elle dit que Dieu est à la fois personnel et impersonnel, et que la rencontre avec Dieu est à la fois personnelle et impersonnelle. Et il en va de même pour le collectif. À propos de ce personnel et de cet impersonnel, ça va extrêmement loin, parce que elle a eu une expérience mystique. Lorsqu'elle dit, je crois que c'est dans la lettre au Père Perrin, elle dit « Le Christ est descendu et m'a prise ».
M'a prise, oui, exactement.
On dirait la Sainte Thérèse du Bernin.
Oui.
Et il faut immédiatement dire que, alors que la dimension érotique est très nette chez le Bernin, que l'expérience mystique est en même temps une expérience, oui, érotique, il n'y a pas d'autre mot. Simone Veil dit « Surtout pas, surtout pas ». Et elle dit, il y a donc un Dieu personnel, je l'ai rencontré, mais Dieu est en même temps impersonnel. C'est cette volonté de, en quelque sorte, de conjuguer le Dieu des philosophes ou le Dieu des mathématiciens, son frère est mathématicien, et le Dieu du Nouveau Testament, le Christ pour elle, qui a aussi fait l'originalité de sa pensée. Et là, je dois dire que moi, je n'ai pas compris. Et je n'ai pas compris comment elle pouvait concevoir cette relation avec Dieu, mais aussi avec le monde, tout simplement, qui soit à la fois personnelle et impersonnelle. Sa grande tentation était de se perdre elle-même, de faire abstraction de sa personnalité complètement. Et en même temps, elle ne peut pas nier que son rapport au monde, son rapport aux autres d'ailleurs, sans parler ensuite de son rapport au Christ, est un rapport personnel. Là, je mets un point d'interrogation dans notre conversation, comme je l'ai mis dans mon livre, parce que je crois que seul quelqu'un qui a pu avoir cette expérience, j'ai cité à plusieurs reprises, je dirais, de confiance, Saint Jean de la Croix, parce que Saint Jean de la Croix dit des choses comme celle-là, et que seuls les mystiques, dans la perception qu'ils ont eue de cette double postulation contradictoire, peuvent témoigner de cette chose-là pour nos autres pauvres humains, quoi.
Oui, d'ailleurs, là, je ne l'ai pas apporté, mais il y a un passage où elle parle des Upanishads, qu'elle avait lues et découvertes. Et Marc Balanfa nous a expliqué ici que, justement, le grand enseignement des Upanishads, c'est précisément la résolution de cette expérience à la fois personnelle et impersonnelle de la, de la présence.
C'est une résolution qui ne se vit pas dans la pensée, mais dans la vie. C'est
dans l'expérience.
C'est l'expérience qui permet de la résoudre, voilà. Et pas la pensée. Il y a une opposition de raison, alors qu'effectivement, dans l'expérience de la vie spirituelle, on peut vivre une rencontre qu'on perçoit comme personnelle, avec un jeu, un tu, une altérité, et en même temps, on peut sentir que le divin, dans le fond, est totalement impersonnel, voilà. Et qu'on est une partie de ce tout qui nous dépasse. Et là, on rejoint le sentiment océanique de Romain le Roland, on rejoint toute cette idée qui rejoint l'Orient, mais que les mystiques chrétiens peuvent vivre, d'être dans cette partie du tout. Et c'est vrai que cette contradiction, elle est passionnante, et en même temps, on ne peut en parler que si on l'expérimente.
Voilà, c'est pourquoi, si on n'a pas eu soi-même cette expérience, on ne peut que, comment dire, en prendre acte. Prendre acte que des gens qui ne sont pas des fous, des névrosés, mais au contraire des gens qui parient.
Ce que Bergson a fait dans son livre « Les deux sources de la morale ou de la religion », où il étudie les grands mystiques,
oui.
en montrant comment ils vivent à la fois cette contradiction. Et une autre contradiction que Bergson pointe, c'est qu'à la fois ils sont éminemment contemplatifs et actifs. C'est-à-dire qu'au fond, leur contemplation les met dans l'action. Ce qu'on pourrait dire de Simone Veil.
Ah, tout à fait.
C'est une contemplative hyperactive. Sa contemplation, sa vie mystique l'investit dans le monde de manière créative.
Vous me donnez une idée, là, effectivement. J'avais jamais pensé à rapprocher ça d'un livre qu'il y a longtemps que je n'ai pas relu, qui est « Les deux sources de Bergson ». Et tel que vous le décrivez ici, ça correspond bien à ce type d'expérience. Et je crois qu'il faut, pour la comprendre, essayer de voir, oui, chez Saint Jean de la Croix, ou chez Maître Eckhart, l'équivalent de cela. Alors, ça nous conduit très loin du monde dans lequel nous vivons. Mais en même temps, ce qui fait que ça n'est pas complètement en dehors du sujet, si j'ose dire, au sens fort du sujet que nous sommes, ce qui fait que ça n'est pas en dehors du sujet, c'est que, comme on l'a rappelé tout à l'heure, elle part toujours du matériel. C'est pas une sorte de vision un peu sulpicienne et éthérée, désincarnée de cette expérience mystique. C'est quelque chose qui part du plus ras de la matière pour aller quelque part où elle-même ne sait pas très bien, d'ailleurs. C'est ça qui est très impressionnant. Et je me suis toujours posé la question de savoir comment elle pouvait faire ça en même temps. Parce que, vous comprenez, Saint Jean de la Croix ou Maître Eckhart, on les imagine en contemplation, dans le silence de leurs cellules.
Ils ont beaucoup
bougé.
Ah
non, ils ont quand même été très actifs.
Ah oui, très actifs.
D'accord.
Ah oui,
d'accord. Mais quand on lit ces textes-là, ce sont des textes purement mystiques. Or, chez elle, il y a toujours sa vie à tout instant est imprégnée
oui,
des deux.
Elle
écrit quand même l'enracinement alors qu'elle est moribonde à Londres, qu'elle est en train de se laisser mourir, mais en même temps, où elle s'est engagée dans la France libre. Alors, ils étaient embêtés hein, parce qu'ils lui ont donné des tâches, surtout qu'elle voulait être parachutée en France, et elle avait inventé un quelque chose qui n'existe pas, une sorte de corps d'infirmières d'avant-garde et qui aurait été aux avant-postes. D'habitude, les infirmiers, les infirmières derrière. Viennent quand même derrière les blessés. Elle voulait quelque sorte devant. Alors, De Gaulle et l'état-major ont dit, bon, écoutez, il faut la calmer un peu, ce qui était le rôle de gens qui l'ont comprise à Londres, il faut que ce soit dit. C'était Maurice Schumann et c'était André Philippe, c'est-à-dire un catholique et un protestant.
Alors, cette émission se termine. Rapidement, pour ceux qui n'ont pas lu des livres de Simone Veil, dites-nous trois livres très différents d'elle que vous conseilleriez.
Bon, j'ai dit pourquoi, en dépit des réserves sur le fait que ce n'est pas tout à fait un livre de Simone Veil, La pesanteur et la grâce est organisé par thème, par Gustave Thibon, quand même une très bonne synthèse, ou en tout cas un très bon résumé des principales directions d'elle-même, de sa vie et de son œuvre. Deuxièmement, il y a L'attente de Dieu,
oui.
L'attente de Dieu, bien dont sûr. Vous avez très bien parlé, et L'enracinement, bien que ce soit un texte très étrange, L'enracinement, très très étrange, moi, sur lequel j'ai beaucoup de réserves, mais c'est son dernier texte, et enfin, pour ceux qui auront été pris par cela, il faut avoir le courage de se plonger, comme on se plonge, je l'ai dit tout à l'heure, dans Pascal, dans les quatre volumes de ces cahiers. C'est pas très difficile à lire, en ce sens que ce sont toujours des pensées séparées. Alors, certains moments, il y a des raisonnements mathématiques auxquels je n'ai pas compris un mot, je n'ai d'ailleurs pas insisté longuement. Alors là, on saute, et pour le reste, ça va depuis des réflexions très, j'allais dire, très terre à terre, jusqu'à une réflexion. Et il a toujours voulu être en débat avec son frère.
Très bien, et puis pour ceux qui veulent découvrir qui est Simone Veil, et je conseille vivement votre livre, c'est moi le livre le plus éclairant et émouvant que j'ai lu sur Simone Veil, Le choc Simone Veil, Café Voltaire, édition Flammarion. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
C'est un plaisir pour moi.
C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous recevrons Élie During qui nous parlera de l'âme. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.